Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Cécile, bonjour.
Bonjour Baptiste.
On va parler d'un sujet qui te touche beaucoup en ce moment et puis d'un sujet qui devrait peut-être nous toucher tous un peu. Des événements qui se sont passés lors des dites manifestations de Bure. Est-ce que tu pourrais tout d'abord resituer pour les gens, parce que c'est vrai que ça a été peu évoqué quand même dans les médias.
Oui, donc je m'appelle Cécile, j'habite dans le Diwa et je fais la démarche aujourd'hui de passer sur les ondes pour parler d'une actualité qui a été bien trop peu relayée par les médias, effectivement. Donc c'était, moi je suis touchée particulièrement par un événement qui s'est déroulé le 15 août à Bure, dans la Meuse. Plusieurs centaines de personnes et d'associations s'étaient rassemblées pour mener une action en opposition à la mise en œuvre du projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires.
Alors, on connaît la Hague, par exemple. Ouais. C'est un autre exemple comme ça. Hein.
Et ben là, c'est vraiment un énorme projet donc mené par l'ANDRA. Il s'agit de 270 hectares aménagés entre trois petits villages de la Meuse où l'idée, c'est que des trains viennent convoient en fait les déchets radioactifs, les plus radioactifs. Ça représente plus de 99% de la radioactivité qui existe déjà sur le territoire français. C'est pas, on parle même pas des déchets futurs qui vont être produits. Mais... Et donc là, l'idée, c'est de tout enfermer sous terre en pensant que comme ça, ça craindra pas trop. Mais c'est vraiment un projet qui tient pas debout, qui est réfuté par de nombreux experts, par de nombreuses associations. Et donc, il y a un gros mouvement d'opposition depuis plus de 20 ans déjà dans la Meuse et puis depuis plus de 30 ans sur d'autres territoires aussi français. Voilà, et donc à cette manifestation à Bure, elle a été littéralement tuée dans l'œuf. En fait, ils étaient vraiment sur le départ. Ils étaient sur le départ, je crois que c'était 500 à 600 personnes.
Une manifestation proposée par qui ?
Alors ça, je ne sais pas te dire.
Ouais. Est-ce que ces trois communes concernées, par exemple, sont elles aussi militantes contre ce projet ?
Moi, je n'ai pas étudié vraiment très précisément la globalité du sujet, donc je n'ai pas les réponses à tout. Je sais que j'ai personnellement rencontré, vu plusieurs élus qui soutiennent la lutte et qui sont même qui manifestent largement leur reconnaissance de toute une génération de gens. Je parle de génération parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui donnent en fait tout un morceau de leur vie pour défendre en fait pour empêcher ce genre de projet. Donc là oui, les élus en tout cas ceux que moi j'ai croisés, ils sont présents, reconnaissants, et ils sont aussi déterminés à ce que ça se fasse pas, parce que c'est vraiment la mort du territoire là.
Allez, on reprend donc cette manifestation, 500 personnes à Bure,
et
ça prête à marcher.
Voilà, donc moi je j'étais pas là-bas, donc je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais ce que j'ai été amenée à apprendre, c'est que en plus des traditionnelles grenades lacrymogènes, dont l'effet terrorisant provoque la sensation d'étouffement, les forces de l'ordre ont utilisé un canon à eau sur la foule, qui comprenait aussi des enfants, enfin vraiment une large population, et une quinzaine de grenades dites assourdissantes, qui sont des grenades explosives extrêmement dangereuses. Donc c'est en fait, il y a vraiment des stratégies qu'on pourrait qualifier de militaires qui ont été mises en place. Ils ont tiré un carré de lacrymogène dans la foule, au loin. C'était pas du tout sur le front, comme on dit. On peut parler de front parce que c'était vraiment une scène de guerre. Et puis donc cette pluie de grenades assourdissantes qui a fait une trentaine de blessés, dont 6 blessés graves. Et voilà, là où moi je suis touchée, c'est que le blessé en titre, dont on parle si peu dans les médias, c'est mon petit frère, qui a 27 ans, qui est père de 2 enfants de 13 mois et 3 ans, qui est paysagiste, et qui s'est pris donc une grenade dans le pied, au niveau du pied, donc il risque de perdre une partie de son pied, de voir sa vie se transformer Totalement. Et là, c'est en tout cas depuis maintenant un peu plus d'un mois, d'atroces souffrances, l'incertitude au quotidien et des affaires. Enfin voilà, ça c'est difficile à décrire, ça serait trop long. Mais en tout cas, c'est.
C'est la fameuse godasse hein, qu'on a vue un peu partout se balader sur Internet notamment. Une godasse complètement éclatée.
Ah bah peut-être.
Voilà, il y avait au moins ça en photo. Oui, tu parles de faire changer radicalement sa vie. Effectivement, là, il y a un handicap qui va arriver. C'est le plus touché, mais tu parlais de si blessé grave. C'est
Ouais.
d'autres personnes qui sont quand même dans une situation vraiment particulière.
Ouais.
Au-delà aujourd'hui du témoignage que tu viens nous apporter, d'abord, qu'est-ce que tu veux dire par là, rappeler un peu les dérives de ces forces de l'ordre, les questions qu'on peut se poser sur les zones à défendre, et aussi pour eux, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il y a au moins des procès en cours, des possibilités de se défendre, de poser des questions aux bonnes personnes?
Alors c'est difficile hein, de témoigner de ça pour moi parce que ça englobe de multiples dimensions. On va parler du nucléaire, d'arrêter le nucléaire, de trouver une solution pour ces déchets nucléaires. Là-dessus, il y a plein d'associations. Hein. Par rapport à spécifiquement ce qui se passe à Bure, je peux relayer le site internet vmc.camp, CAMP. Donc à Bure, il y a une maison de résistance qui s'est installée avec aussi tout un territoire, le Bois-le-Jus, qui a été occupé. Donc là où l'État souhaiterait enfouir les déchets radioactifs, des gens restent au quotidien. Il y a toujours du monde, jour et nuit. Il y a des avions, des hélicoptères qui tournent autour. Enfin, c'est donc il y a vraiment, ça fait bizarre de sortir du Diois. Et donc moi, j'ai été amenée là il y a une semaine. À participer à un rassemblement symbolique autour de Robin, donc mon frère, pour voilà, il y a témoigner de ça et puis être, enfin, c'était aussi pour moi une manière de me tenir au courant, de soutenir mon frère, mais de me rendre compte aussi que il y a des territoires qui sont bien cool, sympa comme le Diois, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment en voie de disparition, quoi. Enfin, et c'est pourtant la même chose, c'est des gens qui habitent, c'est des paysans qui travaillent, c'est voilà. Et là. Ça se sait trop peu, donc moi j'avais envie de relayer aussi cette information-là, ici, dans le Diois. Pour moi, les émotions qui me traversent, elles sont de plein d'ordres différents. Il y a la tristesse, bien sûr, il y a la colère, il y a l'impuissance aussi. Je me demande comment transformer ce type d'information, qu'est-ce que moi je vais en faire, comment je vais vivre avec ça, en fait, même si moi, mon quotidien, enfin, en fait, c'est pas vrai de dire qu'il va pas changer parce qu'il a déjà changé en fait.
C'est quand même ta famille, ouais.
Bah
Ouais.
oui. Et ça se sent dans le ventre très fort. Ouais.
Et Robin est militant particulièrement ou non? Il est sympathisant d'une
Robin
manif
est très très militant.
Ouais.
Oui. Et
Sans vouloir tu vois, partir en vrille, mais il pourrait être quelqu'un de visé, faire partie de ceux qui posent problème à cet endroit-là pour les forces de l'ordre, par
ça, c'est
exemple.
difficile à dire parce que il était vraiment dans la foule. Moi, j'ai par pur hasard, quelqu'un qui était à 5 mètres de lui dans la manif qui est venu frapper à ma porte à Saint-Julien-en-Quin il y a 2 semaines en me disant qu'il avait appris que j'étais la sœur de Robin. Il était chez un copain. Donc, il m'a vraiment décrit aussi pour lui la scène et ça aurait pu être n'importe qui. Ça a été tiré depuis très très loin en fait. Il a vu une grenade exploser à la hauteur de sa tête. Voilà, je voulais rappeler aussi que ces grenades, ces explosifs qui sont dites des grenades assourdissantes, c'est si tu te prends ça dans la tête, t'es mort quoi. Enfin, là autour du pied qui a été atteint, il y a plus de 40 cm de cratère autour en fait. Donc finalement, le pied, ça aurait pu être largement pire. Et voilà, là, l'État vient de recommander 22 millions de ce type de grenades pour assurer la défense du territoire, maintenir l'ordre pendant 4 ans. Donc, il y a aussi le message comment faire pour stopper cette escalade de violence, en fait, et puis surtout enlever ces armes qui tuent, quoi. Voilà.
Et puis là, c'était pas une manifestation particulièrement remplie de black bloc, par exemple. Il n'y avait pas d'objectif de casse.
Alors l'objectif de la manifestation, c'était de mettre à jour un site archéologique néolithique qui a été découvert donc lors des fouilles archéologiques, vu que là, ils projettent de creuser sur 500 mètres de profondeur, 500 mètres de profondeur sous terre. Donc forcément, ils découvrent des trucs intéressants, mais vaut mieux pas trop le dire parce que ça risquerait de nuire au projet. Donc il y a un site archéologique néolithique qui a été découvert et ça, ça se sait pas. Donc l'objectif de la manifestation, c'était de rendre visible ce site. Voilà. Après, la manifestation, comme je te disais, elle a été tuée dans l'œuf. Donc,
Pour quelle raison est-ce que tu penses que ce type d'information nous est caché au-delà de la violence hein, ça, on en voit quand même de temps à autre hein, des personnes qui se retrouvent vraiment pris, comme tu le dis, par des armes. Hein, c'est quasiment ça. Et bien amoché, mais ce type d'événement là, peut-être c'est la question du nucléaire et de notre lobby assez puissant en France.
Je sais pas quoi répondre à ta question, Baptiste. C'est trop précis pour moi là. En tout cas, c'est sûr que je témoigne et je vois de près que tu vas à une manifestation, tu risques d'être amputé du pied 3 heures après. T'es transféré dans des services en hôpital qui disent waouh, on n'a jamais vu ça, c'est de la médecine de guerre et tout ça, parce que c'est vraiment immonde, quoi. Et puis ensuite, il y a eu des interrogatoires à l'hôpital le lendemain de la blessure. Ils l'ont cuisiné pendant 1h30. Ils sont revenus une deuxième fois perquisitionner ses vêtements. Enfin, donc il y a.
Dans quel but ?
Ben, protéger et puis je pense minimiser et voire même prouver le contraire, quoi. Enfin, prouver qu'il a été blessé par autre chose que une stratégie militaire d'attaque et de. Ouais. Ça fait vraiment bizarre de voir ça. En plus les avions qui rôdent autour, enfin, c'est vraiment la terreur, en fait. Moi, j'ai participé donc au rassemblement symbolique. 3 semaines après, là, on devait se retrouver devant la gendarmerie. On était une centaine de personnes. Tout le quartier était barricadé. Enfin, il part tout de suite, en fait. Il y a vraiment une grosse. Enfin, il y a beaucoup de peur dans les deux camps, hein, ça, c'est sûr. Il y a une grosse. Je trouve pas le mot, mais. En tout cas,
ils se blindent, quoi.
Voilà, on n'a pas été autorisés. Là, on était famille, on était enfants, on était autour de Robin qui était dans son fauteuil roulant avec son pied qui a un plâtre énorme et il a eu une greffe là, donc il a toute une jambe qui est foutue et l'autre qui est bourrée d'éclats de grenades. Enfin, c'est crade à voir, hein. Ça fait vraiment, ça fait flipper, quoi. Donc je pense que l'objectif, c'est terroriser la population pour que le projet CIGEO puisse se faire tranquillement sans que personne s'inquiète trop. Après, je crois qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui qui est proposée aussi à ça. Donc la question reste entière. Qu'est-ce qu'on fait de ces montagnes de déchets nucléaires qui existent ? Voilà. Donc stopper le nucléaire à la racine. Et...
Voilà, au-delà d'en produire encore, hein, mais ouais. Ils sont déjà là, ouais, effectivement.
Ouais, ouais.
Et en termes de recours, alors, je t'ai posé la question tout à l'heure,
effectivement, il y a tout un volet administratif à l'affaire, qui n'est pas négligeable, au-delà, après la blessure. Donc, il a pris un avocat, il a décidé de porter plainte, je crois qu'il a décidé, mais c'est pas encore officialisé, mais je crois qu'il va porter plainte à titre individuel contre l'État, donc... Après, ça veut dire des années d'attente, de procès, et il y a des cas qui l'ont précédé, qui finissent toujours en non-lieu. En non-lieu, en fait. Voilà. Donc c'est rien. Tu vas manifester, tu te prends la grenade, t'as plus de pied et t'as rien. Et à peine une reconnaissance médiatique, puisque c'est même pas. C'est passé dans France 3 à Lorraine. C'est passé dans Libération et c'est tout, quoi. 15 jours après, Le Monde disait que c'était trop tard et que c'était plus d'actualité. Voilà, au niveau... je sais pas comment ça va se passer, hein. Je pense que ça va être des années de procès et peut-être d'appel. Enfin, voilà, lui, du coup, maintenant, son seul espoir, un peu, c'est d'être entendu et que ça se sache, quoi. Parce que si tu fais ça et que tu restes chez toi et que rien ne se passe, c'est vraiment horrible aussi, quoi.
Sur cette question d'un non-lieu éventuel, et puis bon, là, sa situation, comment c'est assuré tout ça, alors ? Je veux dire, on peut se retrouver aussi, au-delà d'être ruiné physiquement, ruiné mentalement, et puis ruiné financièrement. Quand il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, qui est rentré dans quelqu'un d'autre, c'est son assurance qui prend en charge, là, comment ça se passe ?
Ouais. Et bien là, ça dépend. Donc, je sais qu'au niveau des frais d'hôpitaux, ça va sûrement certainement, hein, c'est vraiment des suppositions, être pris en charge par des associations de soutien. Voilà, effectivement, ça s'élève à plusieurs milliers d'euros.
Mais ouais.
Et puis, il y a des choses qu'on appelle les ITT, les indemnités, auxquelles je crois qu'il n'aura pas le droit parce qu'il n'a pas suffisamment travaillé. En même temps, il a trop travaillé pour avoir la CMU complémentaire. Donc là, c'est encore hyper frais, en fait, pour te dire comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nombre de dossiers à traiter. Et je ne parle pas de la vie de famille, gérer deux enfants qui ont 13 mois et 3 ans, qui étaient encore beaucoup portés. Enfin, là, moi, je l'ai vu, il m'a dit je fuis. J'ai envie de voir mes enfants et je les fuis parce que c'est trop dur de ne pas pouvoir m'occuper d'eux. Il est vraiment complètement dépendant, en fait, des autres. Et les autres, c'est qui ? Bah, c'est, voilà, nous, sa famille, on est super loin. Enfin, on est à plusieurs heures de voiture, tous. Que ce soit ma mère, mon père, mes frères, ma sœur. Donc nous, on est loin, donc on vient comme on peut. Mais sinon, les aidants, bah, c'est... les autres militants, les associations de soutien et tout ça. Et ça, il est plutôt bien entouré. Jusqu'à maintenant, il y a ils s'organisent pour le conduire, par exemple, à l'hôpital de Nancy, parce qu'il y a un hôpital spécialisé, parce que, bah, évidemment, il ne peut pas conduire. Donc, c'est toute une organisation collective, en fait, qui doit aussi... il n'y a pas de, tuteur, en fait. Personne ne prend en charge... sa personne, donc il doit tout gérer, demander de l'aide, trouver le soutien dont il a besoin. Et c'est une grosse, grosse, grosse affaire, ouais. C'est vraiment les boules.
L'occasion de redire, comme c'est déjà le cas sur plusieurs interviews qui se succèdent, on peut se sentir complètement loin de ce qui se passe dans notre gouvernement, mais de près ou de loin, finalement, on a toujours au moins quelqu'un qui est touché par une des mesures ou une des actions qui ont été... mise en place, ta vie comme la sienne change en quelques semaines. J'espère que cet instant de témoignage te permet aussi d'évacuer les choses, mais comment on travaille avec ça ?
Bah, je sais pas encore. Là, en tant que moi, mère de famille aussi, avec des enfants qui sont encore assez jeunes, et musicienne qui redémarre son activité professionnelle, j'ai l'impression que je dois faire des choix et que c'est impossible de choisir entre m'occuper de mes enfants, redémarrer au niveau professionnel ou soutenir mon frère. Et j'ai l'impression que c'est difficile de tout mener. Donc c'est poser les choses calmement, c'est prioriser. C'est clair que ça génère beaucoup d'émotions à la maison aussi. Et même sans s'en rendre compte, mes enfants sont impactés probablement aussi par ce que moi je vis. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'en parle. J'en parle aux gens qui me connaissent, que je croise. C'est difficile parce qu'on me pose la question « ça va ?» Et du coup, j'ai envie de dire oui, et en même temps, j'ai envie de dire non. Et en même temps, si je commence à parler de ce sujet qui me touche, ça prend vite une grande dimension. Et souvent, on ne se donne pas le temps, quand on se croise dans la rue, d'aller dans ces échanges-là. Donc, pour moi, ce n'était pas OK de dire ça va. Et ça ne l'est toujours pas. Et en même temps, je discutais avec un voisin. C'est un premier pas pour moi de venir à la radio. C'est un voisin qui me l'a suggéré et je viens d'habitude pour promouvoir mes activités professionnelles et puis pour faire le point sur où j'en suis. Bah là, du coup, voilà, ça devient aussi la radio, hein, une opportunité de mettre les choses sur une table, de partager avec une plus grande audience aussi, large, plus large que les gens qui me connaissent. Et c'est effectivement qu'un seul premier pas, je ne sais pas, je réfléchis au jour le jour. Voilà, je pense que mon frère est aussi dans ce cas de figure, c'est même l'heure. C'est-à-dire, c'est super dur d'anticiper parce que tout d'un coup, on a une avalanche de trucs nouveaux à prendre en compte dans notre vie. Et du coup, c'est pas à pas et petit à petit.
Est-ce que tu as des gens qui t'ont dit que finalement il était responsable, hein, de s'être mis dans cette situation ?
Ah ben, de toute façon, il y a tous les points de vue, hein, mais oui, j'ai eu, y compris dans mon entourage,
ah ouais.
Pas des gens forcément qui m'ont dit ça directement, mais Voilà, violence égale violence, et on peut parler des violences policières et on peut parler de toutes les autres violences qu'il y a autour, celle de l'État, des institutions, et puis celle des manifestants, parce qu'il y en a aussi, et c'est pas l'idée de les taire non plus. Mais là, c'est pas ça dont il s'agit, donc c'est vrai que c'est un peu un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi.
En tout cas, on a fait passer un message qui est celui que il y a des armes qui circulent sur les manifestations, et ça, c'est quand même un peu grave pour des dites forces de l'ordre. Se retrouver face à des gens armés, c'est toujours une situation qui peut poser des questions assez lourdes, les manifestants étant eux-mêmes violents ou pas. Voilà, pourquoi un tel arsenal? Est-ce que tu voudrais qu'on redise encore un truc?
Ouais, je pense que c'est important en tout cas pour ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se passe en dehors du Diwa, et c'est important de lire la presse alternative. Je pense à Mediapart, par exemple, qui a bien relayé les infos. Je repense au site internet, donc vmc.camp. C'est important, je pense, de continuer aussi à soutenir les productions alternatives d'électricité, enfin, de faire chacun sa part de Colibri, en fait. Il y a une vidéo aussi de reporter, Le Quotidien de l'écologie, là, qui retrace un peu l'événement. Après, chacun de nous en fera ce qu'il en fera, quoi. C'est effectivement de l'énergie qu'on reçoit et qu'il faut transformer, parce que ça peut pas rester à l'intérieur de ton corps. Quand t'apprends un truc comme ça, tu peux pas ne rien en faire, en fait. Tu faut le transformer en quelque chose. Donc
Et puis les mouvements contestataires, en tout cas les manifestations, il y en a encore plein annoncés. Là, le mois de septembre, on est plein pour plein de sujets différents. C'est pas fini, donc voilà, vous qui allez un jour y aller peut-être parce que ça vous branche, et ben il y a quand même ça qui peut arriver derrière. Voilà, une vie qui change alors qu'on voulait juste exprimer des idées ou soutenir des idées.
Ouais, et surtout, comme ils disent là-bas, il faut pas se laisser abattre et continuer, parce que je pense que l'objectif là de l'État, c'est la répression,
la peur,
c'est la censure de l'expression, la peur. Et donc on pourrait avoir peur et tous rester chez nous, mais je crois que c'est vraiment pas l'idée. Donc continuer à sortir, à voir le jour et à exprimer nos idées et à faire les actions qui nous paraissent importantes et justifiées. Et puis j'en profite pour terminer, pour remercier moi j'ai envie de remercier bien que ce soit pas mon moyen d'expression au monde, à moi, j'ai envie de remercier tous les gens qui sont là-haut, dans la Meuse. Donc la Meuse, c'est la France. Hein. On ne connaît pas trop, hein, ça a l'air un peu plat et un peu pourri dans nos imaginaires. Là, c'est très beau, il y a des bois, il y a des gens super sympas. Donc remercier tous les gens qui offrent une part de leur vie, qui offrent une heure, trois heures, une journée, des semaines, des mois, voire des années pour occuper un territoire et empêcher des projets de l'État qui sont vraiment pas du tout sécurisés. Hein. Il y a beaucoup de brochures qui circulent aussi, hein, sur la poubelle atomique, les déchets nucléaires. Ne pas enfouir, c'est vraiment une bombe atomique sous terre là, qui s'apprête à être installée dans la Meuse, voilà, sans qu'on s'en rende trop bien compte.
Merci Cécile.